Les 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Vous suivez la voix de l'Amérique dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie. Et ce sera avec Camille Grosdidier. Voici les grands titres d'ailleurs. Le G7 a pris des engagements forts pour les pays en développement.
Il demande en fait que le nouvel agenda soit un agenda global qui ne se limite pas aux pays en développement. Il demande aussi la prise en compte des questions par exemple de paix et de gouvernance qui ne se retrouvent pas forcément dans les objectifs du millénaire actuel.
Frédéric Rodeur de l'ONG ON France nous en dira davantage. Les producteurs de café s'étaient donné rendez-vous au Cameroun pour relancer la production. Et aux États-Unis, l'économie qui s'était contractée de 1% au premier trimestre semble avoir repris son élan. Bienvenue à ce bulletin d'information. Nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Plus de 300 membres présumés du groupe radical nigérian ont investi le village de Gorsitourou, incendiant des villages, des églises et pillant la localité. Les forces camerounaises sont arrivées sur les lieux 2 heures plus tard pour livrer bataille. L'attaque a été repoussée et les assaillants se sont enfuis en territoire nigérian, selon le ministre camerounais de la communication, Icha Chiroma. Il a fait état de nombreux assaillants tués ainsi qu'un soldat camerounais et un villageois. Il a appelé les habitants à informer les autorités de toute activité suspecte dans leur région. Les trois mouvements rebelles du nord du Mali, le Mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le Mouvement arabe de l'Azawad ont signé lundi la déclaration d'Alger où ils réaffirment leur volonté d'un dialogue inclusif avec les autorités maliennes afin de consolider la paix. Au micro de Claire Morin-Jibou, Mohamed Ag Ahid, le porte-parole du HQA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, revient sur le contenu de cette déclaration.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On est en train de faire des efforts pour avancer, pour aller vers le dialogue comme la communauté internationale l'a toujours souhaité. Donc c'est pour montrer et prouver notre bonne volonté à aller de l'avant et afin de trouver une solution durable à ce problème. Maintenant, on a discuté bien sûr avec les autorités algériennes. On a évoqué toutes les difficultés qu'il y avait et aussi on a dit ce qu'on attend, notamment une nouvelle gouvernance dans les droits et dans les faits, en tenant compte de la diversité géographique, économique, culturelle et surtout la spécificité de l'Azawad. Et il y a l'aspect sécuritaire aussi qui est très important et le développement et aussi trouver les mécanismes par lesquels il faut garantir tout ça.
Mohamed Ag Ahid, le porte-parole du HQA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Le président du Conseil des imams et des prédicateurs du Kenya a été abattu ce matin à Mombasa. Selon les enquêteurs, Cheikh Mohamed Idriss, un imam modéré, a été menacé par des jeunes musulmans radicaux et il craignait pour sa vie. C'est le 4e chef religieux à être tué dans cette ville kenyane dans les 2 dernières années. Les 3 autres étaient accusés d'avoir des liens avec Al-Shabaab, groupe militant somalien lié à Al-Qaïda. Le nombre de migrants arrivés par bateau en Italie depuis l'Afrique du Nord en 2014 passe la barre de 50 000. Le directeur général de l'OIM, William Lassie-Swing, a appelé ce mardi à prendre des mesures au plan international suite à l'arrivée de plus de 5 470 migrants en Sicile ce week-end. Israël a élu ce mardi son nouveau président, un député conservateur qui s'oppose à la création d'un État palestinien. Candidat du Likoud, âgé de 74 ans, Reuven Rivlin, succède donc à Shimon Peres à la tête de l'État hébreu. Post-protocolaire, quoique très influent, le nouveau président préconise la création d'une confédération avec les Palestiniens plutôt que l'indépendance. M. Rivlin prendra ses fonctions en juillet à la fin des 7 ans de mandat de M. Peres, qui est prix Nobel de la paix et qui a beaucoup plaidé en faveur de la paix avec les Palestiniens. Et puis enfin, la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Navi Pillay, a démissionné. Elle reproche à la communauté internationale son indifférence face aux atrocités commises dans le monde. Dans un ultime discours avant de quitter son poste, elle a déclaré que la politique prend trop souvent le pas sur les droits de l'homme. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, ne partez pas. Dans un instant, le magazine de l'économie.
Quoi Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier, pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord, le G7 a pris des engagements forts en faveur des pays en développement.
Il demande en fait que le nouvel agenda soit un agenda global, qui ne se limite pas aux pays en développement. Il demande aussi la prise en compte des questions par exemple de paix et de gouvernance qui ne se retrouvent pas forcément dans les objectifs du millénaire actuel.
Frédéric Rode de l'ONG One France nous en dira davantage. Les producteurs de café s'étaient donné rendez-vous au Cameroun pour relancer la production.
La perte de la compétitivité et des performances du café amène beaucoup d'intervenants à se retrouver sans emploi. Donc la baisse des prix du café sur les marchés internationaux a été très préjudiciable aux économies de cette zone.
Nicolas Pinault aura tous les détails. Et ici aux États-Unis, l'économie qui s'était contractée de 1% au premier trimestre semble avoir repris son élan. On commence avec un bilan du sommet du G7, les 7 plus grands pays industrialisés de la semaine dernière. Ils se sont penchés sur les flux financiers illicites des pays en voie de développement et l'industrie extractive. Des avancées majeures selon l'ONG One France. Les chefs d'État du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis se sont en premier lieu accordés sur la nécessité de développer un agenda post-2015 ambitieux et universel. En effet, les objectifs du millénaire pour le développement arrivent à échéance en 2015 et l'élaboration des futurs objectifs mondiaux post-2015 est en route, rappelle Frédéric Rode, directrice de One France. On l'écoute.
Ils ont pris quelques premiers engagements par rapport à l'agenda post-2015. Ils demandent en fait que le nouvel agenda soit un agenda global, qui ne se limite pas aux pays en développement. Ils demandent aussi la prise en compte des questions par exemple de paix et de gouvernance qui ne se retrouvent pas forcément dans les objectifs du millénaire actuel. Donc ils se sont mis d'accord sur quelques principes, qui est certainement important parce que c'est maintenant que les négociations vont s'ouvrir au niveau de l'ONU et donc dans lequel le G7 va bien sûr peser. Et donc c'est important d'avoir cette première prise de position du G7.
Et en ce qui concerne l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, elle permettrait en fait de mettre au point un standard international. Où est-ce qu'on en est ?
La transparence du secteur extractif est en effet une question qui préoccupe le G8 depuis plusieurs années. Et on va vers un standard international. Les États-Unis ont déjà adopté une loi dans ce sens et l'Union européenne aussi. Et le Canada est en train de travailler sur une loi similaire. Et le G7 réitère l'engagement d'aller vers ce standard international de reporting au niveau des projets extractifs. Et c'est important que le G7 réitère cet engagement parce que le sujet va être extrêmement important lors du sommet du G20 qui se tiendra en novembre en Australie. L'Australie, en fait, est un pays minier très important, mais qui, lui, pour le coup, n'a pas encore de loi de transparence qui régule l'actif. Le G7 a également lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Connex et qui est censée aider les pays pauvres à mieux négocier les contrats avec, par exemple, les entreprises pétrolières. Et ça, bien sûr, c'est un volet très important aussi. Il faut déjà que les contrats soient justes et après qu'il y ait transparence de ces contrats et notamment des paiements qui sont versés sur la base de ces contrats.
Pour la première fois, le G7 a reconnu que la transparence des sociétés écrans et des trusts peut aider les pays en développement.
Oui, alors ça, c'est intéressant. Donc, depuis l'année dernière, le G7 se préoccupe de l'opacité des sociétés écrans et des trusts. Et déjà, l'année dernière, il avait appelé à une plus grande transparence à cet égard. Donc, l'idée, c'est qu'il faut pouvoir connaître les propriétaires réels qui se cachent derrière des sociétés écrans et des trusts et qui les utilisent pour, par exemple, frauder le fisc ou pour blanchir de l'argent issu de la corruption. Alors cette année, le G7 n'est pas allé plus loin dans ses engagements, mais il a reconnu que cette transparence des sociétés écrans et des trusts est en effet très importante pour les pays en développement. Et ce que One appelle le G7 maintenant à faire, c'est d'aller au bout de cette démarche et de se dire pour que la transparence des sociétés écrans et des trusts bénéficie vraiment aux pays en développement et qu'eux aussi puissent mieux lutter contre la fraude fiscale et la corruption, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre public les informations sur les propriétaires réels. Donc ce qu'il faut, c'est pas seulement améliorer les mécanismes qui existent pour tracer ces propriétaires réels, mais il faut aussi mettre ces informations dans le domaine public pour que, par exemple, les administrations des pays en développement, mais aussi, bien sûr, les citoyens, les chercheurs, les journalistes, les ONG, puissent avoir accès à ces informations et puissent en faire bon usage. Et ça, malheureusement, donc cet engagement de rendre public les informations sur les propriétaires réels, ça, malheureusement, ça manque dans le communiqué final. Et là encore, One espère voir des avancées lors du G20 en novembre en Australie. Et One compte également sur le processus européen. En fait, l'Union européenne est en train de revoir sa loi qui porte sur la régulation des sociétés. Et on espère que l'Union européenne va aller de l'avant et va proposer un accès public aux informations sur les propriétaires réels des sociétés écrans et des trusts.
Madame Frédérique Rodeux, directrice de One France, elle était jointe en France. Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain et invité d'honneur de l'Union panafricaine des avocats, a lancé un avertissement à Yaoundé. L'Afrique perd énormément lorsque son argent est transféré vers l'étranger. Issa Napon.
À l'occasion de son assemblée triennale au Cameroun, l'Union panafricaine des avocats a chiffré à entre 50 et 60 milliards de pertes le coût annuel de la corruption en Afrique, qu'il s'agisse de vols, pots de vin, échanges douteux entre sociétés, activités criminelles, commerce international, réseaux financiers internationaux et autres. Le président de l'organisation, Maître Elia Banda, affirme que les détournements de fonds ne sont plus le fait uniquement de dirigeants véreux.
The way we understand financial flows is not people cutting boxes of cash across the border.
Il ne s'agit pas de gens qui traversent les frontières avec des caisses remplies de sous. C'est fait de plusieurs manières dans les transactions multinationales, des transferts entre corporations. Femi Falana, un avocat nigérian spécialisé dans les droits humains, accuse ces multinationales de collaborer avec les élites de son pays pour piller les ressources. Le gouvernement nigérian, par pure irresponsabilité, après 54 ans, ne sait toujours pas combien de pétrole est produit quotidiennement au Nigeria. Il s'appuie sur ce que Shell, Mobil et les autres compagnies pétrolières nous disent. Voici ce que nous avons retiré de sous-sol. Nous avons perdu, comme en 2011, jusqu'à 16 milliards de dollars. Les carences juridiques facilitent ces trafics, selon l'avocat Falana, qui ajoute que depuis 2011, on peut même quitter le pays en déclarant l'argent que l'on sort, même s'il s'agit de millions. Dans un rapport conjoint, la Banque africaine de développement et l'ONG américaine Global Financial Integrity ont indiqué qu'entre 1980 et 2009, jusqu'à plus de 1 000 milliards de dollars ont quitté illicitement l'Afrique. L'avocat camerounais Akere Mouna explique que la Banque mondiale aide les pays africains à retrouver la trace de ces fonds. Mais même s'ils sont localisés, affirme Anna Gardner de l'ONG International Lawyers for Africa, le processus pour les récupérer est long et ardu, d'où le désir de trouver les moyens de le simplifier. Pour Thabo Mbeki donc, c'est tout l'avenir de l'Afrique qui est en jeu.
Ici Washington, je vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie au micro Camille Grosdidier. Les producteurs africains de café se sont rassemblés au Cameroun pour tenter de relancer la production en déclin depuis de nombreuses années. Selon certaines estimations, elle aurait chuté de jusqu'à 70%. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, le règne de l'Afrique sur le café et le cacao s'est achevé il y a longtemps. Si dans les années 80, le continent produisait 40% du café mondial, il ne représente aujourd'hui qu'à peine 10%. Pour l'exportateur camerounais Bouinda Albert, il ne fait aucun doute que la crise économique de la fin des années 80 et du début des années 90 a été fatale à l'Afrique. Les gouvernements africains ont suspendu leur aide financière et technique aux producteurs de café, selon lui. Parmi les autres facteurs cités pour ce déclin, le changement climatique, le vieillissement des plantations et l'abandon du secteur au profit du pétrole et autres ressources minérales. En conséquence, des millions d'Africains qui vivaient du café se sont retrouvés au chômage, souligne l'analyste Roger Betala.
Lorsque le café a des problèmes, tous les intermédiaires, les torréfacteurs, les transporteurs, les usiniers sont touchés. Deuxième chose, c'est cette difficulté à recycler cette main-d'œuvre qui était dans le café. La perte de la compétitivité et des performances du café amène beaucoup d'intervenants à se retrouver sans emploi. Donc la baisse des prix du café sur les marchés internationaux a été très préjudiciable aux économies de cette zone.
Le PIB de nombreux pays africains a souffert de la crise du secteur, ajoute M. Betala.
Au Cameroun, par exemple, le café entrait dans la constitution du produit intérieur brut autour de 15 à 20%. Mais aujourd'hui, c'est peut-être même moins d'1% du produit intérieur brut du Cameroun aujourd'hui vient du café.
La rencontre de Yaoundé vise à identifier les moyens pour augmenter la production d'au moins 50% en 2 ans. Pour Bédimo Joseph de la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, l'Afrique doit travailler avec les géants du café des autres continents, tels que le Brésil, qui représente aujourd'hui un tiers de la production mondiale de café.
Nous avons dans nos collections, par exemple, quand je voudrais parler des collections de café arabica, on a 217 génotypes. De ces génotypes, nous faisons la sélection variétale. Pour l'instant, il y a un travail qui est fait sur le terrain avec les génotypes qui nous sont venus d'Amérique latine et que nous essayons de travailler avec les autres collaborateurs brésiliens, français, etc.
John Schroeter de l'ONG Coffee Africa ne doute pas de la capacité de pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore la République démocratique du Congo à atteindre les objectifs fixés. La consommation de café augmente à travers le monde et le café africain est appelé à rejouer un rôle de premier plan selon lui. La recherche, l'application d'engrais, le rajeunissement des plantations sont autant de mesures qui peuvent assurer la relance du secteur, affirme-t-il.
Camille Gros Didier pour le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique, ici aux États-Unis. L'économie qui s'était contractée de 1% au premier trimestre a repris son élan. Le point avec Chérubin Dorsil.
Le bon rythme d'embauche et d'autres indicateurs, allant des ventes automobiles à l'activité manufacturière et dans les services, suggèrent que la croissance se chiffrera aux alentours des 2,5% en rythme annualisé durant le reste de l'année. C'est ce qu'annonce la National Association for Business Economics, le groupe officiellement chargé de décider si l'économie américaine croît ou si elle chute. La NABE prévoit une croissance de 3,5% du PIB au deuxième trimestre. Le président du groupe, Jack Kleinhans, a dit que les économistes s'attendent à une embellie du marché du travail qui devrait ajouter une moyenne de 209 000 emplois par mois cette année. La semaine dernière, le département du travail a annoncé que le taux de chômage est resté stable à 6,3% en avril aux États-Unis, alors que la première économie mondiale créait 217 000 emplois. La croissance de l'emploi a été plus forte dans les secteurs des services commerciaux et professionnels, des soins de santé et des services alimentaires. Le taux de chômage reste à son niveau le plus bas en 5 ans et demi. L'espoir reste que l'économie américaine connaît un nouvel élan après un hiver remarquablement ardu. La récession avait fait disparaître 8 700 000 emplois et ces derniers chiffres montrent que l'économie les a récupérés, souligne le département du travail. Mais comme la population a augmenté depuis 2008, il faudrait créer des postes supplémentaires, notent les experts. Par ailleurs, les économistes soulignent que l'embellie sur le front de l'emploi cache le malaise existant chez les personnes souhaitant un emploi, mais ayant arrêté d'en chercher, et celles qui travaillent à temps partiel, faute d'avoir trouvé un emploi à plein temps.
Ici Washington, Camille Gros Didier pour le magazine de l'économie. Il faut réorienter l'agriculture mondiale vers une approche intelligente face au changement climatique. Tel est l'appel de la FAO pour qui une telle approche pourrait faciliter un renouveau économique et agricole dans les zones rurales. Déjà, fait valoir l'agence onusienne dans un communiqué, de nombreuses communautés rurales sont en train de transiter vers de nouvelles formes d'agriculture mieux adaptées au changement climatique. D'autres explications avec Alexandre Maybeck, conseiller principal pour l'agriculture, l'environnement et le changement climatique à la FAO.
L'agriculture intelligente face au climat, Climate Smart Agriculture, vise à mieux prendre en compte, mieux intégrer dans les choix en matière agricole, c'est-à-dire à la fois les choix de pratique, les choix politiques, les choix d'investissement, les mécanismes financiers, de mieux intégrer les difficultés supplémentaires ou la nécessité de prendre en compte le changement climatique. Cette Cette approche a été développée par la FAO à partir de 2010 pour prendre en compte de façon intégrée à la fois la nécessité d'augmenter la production alimentaire pour réduire l'insécurité alimentaire et aussi de prendre en compte l'impact considérable du changement climatique sur l'agriculture et dès maintenant. Donc l'objectif d'une agriculture intelligente face au climat, c'est bien de prendre en compte, au moment où on prend n'importe quelle décision dans le domaine agricole, la nécessité à la fois de produire plus et mieux, de s'adapter au changement climatique et, dans la mesure du possible, de ne pas augmenter les émissions autant que l'on va augmenter la production.
Alexandre Maybeck a également évoqué les changements de mentalité au plus haut échelon des classes politiques à travers le monde.
C'était très clair lors de la dernière conférence climat à Varsovie que tous les pays, partout dans le monde, ont maintenant conscience de l'impact du changement climatique sur les systèmes agricoles et alimentaires, d'un impact qui va aller grandissant et donc de la nécessité de s'y préparer et de changer les systèmes. Ceci étant, ça suppose la mise en place de politiques spécifiques et surtout la mise en place de politiques intégrées entre l'agriculture, l'environnement, la planification du territoire, le développement économique et agricole. Les changements qui sont nécessaires sont d'une telle ampleur qu'il peut arriver que pendant quelques années, adviennent soit des baisses de production, soit des risques de plus grande variabilité de production, le temps de changer les systèmes, de s'habituer à de nouvelles pratiques. Et ces changements nécessitent donc une aide à la fois des acteurs privés pour mettre à la disposition des agriculteurs les techniques nécessaires, les semences nécessaires, à la fois des pouvoirs publics pour aider aux investissements nécessaires et aussi pour compenser les surcoûts provoqués par ces changements. Cette nouvelle approche est absolument essentielle parce que maintenant il est clair pour tout le monde que, quelles que soient les politiques mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre maintenant, le climat a déjà commencé à changer et va continuer à changer pendant un certain temps. Les agricultures doivent donc modifier leurs pratiques pour être en mesure de continuer à produire les ressources alimentaires dont une population croissante a besoin, mais aussi pour continuer à donner de l'emploi et des moyens d'existence aux agriculteurs qui en dépendent, en particulier dans les régions les plus vulnérables.
Monsieur Alexandre Maybeck, conseiller principal pour l'agriculture, l'environnement et le changement climatique à la FAO, dont les propos ont été recueillis par Muriel Sarr de la FAO. Washington, Camille Gros-Didier, vous suivez le magazine de l'économie de la Voix de l'Amérique. Avec ses 730 000 tonnes, le Burkina reste le principal pays africain producteur de coton. Quel est l'impact du coton sur la vie des Burkinabés, sa place dans le développement économique du pays? Des réponses dans ce dossier signé Zoumana Wonogo à Ouagadougou pour la Voix de l'Amérique.
La filière coton au Burkina bénéficie très souvent des subventions de l'État. Pour la campagne qui vient de s'écouler, le gouvernement burkinabé a délié le cordon de la bourse à hauteur de 10 milliards de francs CFA pour subventionner les intrants. Pourquoi toutes ces largesses de l'État envers ce secteur? Écoutons les explications de Jean-Paul Sawadogo. Il est le directeur général de la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina.
Quand vous prenez l'agriculture américaine, elle est subventionnée à hauteur de 75%. Lorsque nous aidons les producteurs à pouvoir acquérir des intrants à un coût accessible, ils disent « Ah non, il faut les laisser à eux-mêmes ». Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour distribuer en un an, au niveau de la zone Sofitex, 120 milliards de francs CFA comme revenu aux producteurs, pour avoir mis 10 milliards. C'est après nous les laisser. C'est mieux de faire comme ça que de les laisser, et puis à la fin de la campagne, les gens sont affamés. Tu vas faire quoi? Tu as oublié de trouver les solutions pour leur donner quelque chose à manger.
Prenant la question des subventions au rebond, Jonas Bayoulou, le secrétaire général de la Sofitex, donne ici les détails sur les impacts macro et microéconomiques du coton. On écoute.
Prenez le Burkina Faso aujourd'hui. Sans le coton, qu'est-ce que l'économie devient? Vous allez vous rendre compte qu'on va avoir des problèmes énormes. Du point de vue de la puissance publique, ils ne regardent pas, je mets 10 milliards pour partager 120. Ils ne regardent pas l'impact d'une dépense immédiate, mais ils regardent l'impact global sur toute l'économie, sur tous les agents économiques. On voit bien tout l'intérêt et toute l'importance du coton pour notre économie. Maintenant, au plan microéconomique, je vais vous prendre l'exemple sur mon département d'origine, Tiriba. Cette année, il a été produit là-bas 14 352 tonnes. Mais l'argent qui a été payé en net entre les mains des producteurs du département C'est 3,45 milliards. Mais que feraient-ils ces producteurs-là qui pourraient leur procurer ce type de revenus? Et quand on a vérifié, le taux de crédit était autour de 32%. Quand on a fait un petit calcul sur les prix de 235, c'est comme s'ils avaient utilisé uniquement 13 francs le kilo du coton pour payer le prix des intrants. La viabilité microéconomique, là, c'est une question d'organisation et d'efficacité de chaque producteur.
Nous avons rencontré Marie Wedrogo. Elle est productrice de coton. Elle dit ici l'importance du coton dans l'économie familiale.
La culture du coton, c'est très bien parce que ça nous aide beaucoup dans les familles. Ça nous aide à payer beaucoup de choses, à payer les scolarités des enfants et les moyens de transport. Et nous sommes contents de cultiver le coton parce que ça nous aide beaucoup, beaucoup.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Washington, Camille Grosdidier, vous suivez le magazine de l'économie de La Voix de l'Amérique. Plus d'une centaine de porcs sont morts en une semaine à Malemba Nkulu, à 700 km de Lubumbashi. Les services vétérinaires de ce territoire du Katanga soupçonnent la peste porcine africaine. Le point avec notre correspondant Narwal Mabila.
Les autorités du Katanga préfèrent garder silence sur l'épidémie de la peste porcine africaine apparue il y a un mois et demi aux alentours de la ville de Lubumbashi. L'alerte de l'épidémie porcine avait été lancée par la ferme Top Impact située sur la route Kasenga à plus de 50 km de la ville de Lubumbashi où toute la porcherie a été dévastée dans moins de 20 jours. Aujourd'hui, la peste porcine africaine est à la porte du centre-ville, dans un rayon de 7 km. Selon les informations recueillies auprès des différents éleveurs et médecins vétérinaires, plusieurs fermes sont touchées par cette épidémie, à savoir la ferme Inulu, Megaster, Number One, ferme Chenge, sur l'axe route Kafubu. Coco Chenge, qui est un éleveur, donne son témoignage.
On a eu une épidémie avec les porcs. On avait au total 87 têtes de porcs. Et il y a 45 jours, ils ont commencé à être malades. Un an, on avait une mortalité de 5, 10 par jour. Et en moins de 10 jours, tous ils étaient... J'avais un vétérinaire qui est venu en consultation, disons qu'il est venu travailler. Il m'a dit que c'était la peste porcine. J'essaie de prendre les produits chez PharmaVet. On a pris plusieurs produits. Il a essayé de les sauver, mais c'était pas facile pour lui et les bêtes mouraient. Tous les gens. Il y a plusieurs fermes dans la ville qui ont été touchées par cette maladie. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Informé de la situation, les services vétérinaires provinciaux de la production animale a pris une seule mesure, de lancer une note circulaire, d'alerter les fermiers de la présence de la peste porcine africaine afin de limiter la propagation. En entendant l'arrêté du gouverneur, explication du docteur Georgette Kilo, responsable de la production animale.
Nous sommes informés qu'il y a une épidémie de peste porcine africaine aux alentours de la ville de Lubumbashi. Il y a beaucoup de fermes qui sont déjà frappées par cette maladie-là. Il y a plus d'un mois et demi d'ailleurs qu'au niveau de l'inspection provinciale de l'agriculture, on a fait une note circulaire qu'on a distribuée aux fermiers pour qu'ils puissent appliquer des mesures prophylactiques afin d'empêcher la propagation de cette maladie-là. Pour le moment, nous attendons qu'on puisse signer un arrêté au niveau du gouvernement provincial afin d'interdire le mouvement des bêtes. De toutes les façons, la plupart des fermiers sont informés que la peste est là et qu'ils doivent appliquer les mesures prophylactiques, sanitaires, tout ça. Ça se retrouve dans la note circulaire.
Les Louchouans ont pu s'informer de la présence de l'épidémie par les trichements des éleveurs et des médecins vétérinaires. Patrick Katende, commerçant de produits vétérinaires.
Éleveurs et vétérinaires sont dans les fermes et ils nous ont fait part de la présence de la peste porcine africaine. Ok, ce n'est pas à eux de déclarer la maladie, c'est au gouvernement provincial qui doit le déclarer officiellement. Mais est-il que la maladie elle est déjà dans les différentes fermes porcines autour de Lubumbashi?
Pendant que la peste porcine africaine poursuit sa propagation dans les élevages des porcs à Lubumbashi, les dossiers semblaient être classés dans les armoires et réactivés à notre passage au ministère en charge de l'agriculture, pêche, élevage. Il est difficile d'expliquer la négligence des autorités dans la gestion de l'épidémie de la peste porcine africaine qui fait son apparition dans un intervalle de 5 ans dans la province du Katanga, alors que la plupart des autorités sont fermiers. Lubumbashi, Narwal Mabila, pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.